Dieu a mis sur mon cœur de vous parler de l'adoration. Le titre du message est le suivant: être le vrai adorateur que Dieu demande. Qui veut être un vrai adorateur ce matin? Amen. Et vous savez, on ne peut pas parler de l'adoration si on ne fait pas référence, si on ne mentionne pas David, qui est l'adorateur par excellence. Et vous savez, David a même écrit un psaume qui est une exhortation à l'adoration. C'est le psaume 95, et nous allons lire les 6 premiers versets de ce psaume. David dit ceci, donc c'est affiché: « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Amen. Dans tous les psaumes que David a écrits, et en particulier celui-ci, nous voyons quelque chose qui est vraiment typique de l'adoration. Nous voyons des chants, des cantiques dans la joie, poussons des cris de joie. Offrir des louanges à Dieu est également un moyen d'adorer, se prosterner. Venez, prosternons-nous, humilions-nous. Alors il y a certains ce matin qui vont se dire, mais c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. Et d'ailleurs, c'est ce que nous venons de faire il y a quelques minutes grâce à l'équipe de louanges. Mais mes chers amis, le fait de venir à l'église, le fait de chanter les chants qui sont projetés, le fait de danser, voire même des fois de pleurer pendant le temps d'adoration, est-ce que cela fait de moi un vrai adorateur? Le fait de dire « Seigneur, je te loue, je t'adore », est-ce que ça fait de moi un vrai adorateur? Dieu prend-il aujourd'hui, ce matin, chaque jour, Dieu prend-il plaisir à mon adoration? Et David, toujours le même David, l'adorateur par excellence, il nous aide à répondre à ces questions. Le psaume 40, verset 17, qui est affiché, David nous dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. J'ai souligné que ceux qui aiment ton salut, un vrai adorateur de Dieu est un amoureux de Dieu. Un vrai adorateur de Dieu est un amoureux de Dieu. Et pour les amoureux qui sont parmi nous ce matin, et j'en fais partie, vous savez que pour faire plaisir à celui ou à celle qu'on aime, il faut démontrer notre amour. Oui, ça on le sait. Mais il faut démontrer notre amour d'une manière telle que cela touche le cœur de celui ou de celle qu'on aime. Vous savez, si mon conjoint, mon époux ou mon épouse, ce qu'il ou elle attend de moi, c'est d'être présent à ses côtés, de passer du temps avec lui ou avec elle, j'ai beau lui offrir des boîtes de chocolat, il ne va rien se passer. Dans l'adoration, c'est pareil. Pour être un vrai adorateur selon le cœur de Dieu, je dois chercher à comprendre, à connaître et à appliquer ce que Dieu attend d'un vrai adorateur. Et nous allons voir ce matin trois clés bibliques qui traduisent ce que Dieu attend d'un vrai adorateur. Première clé qui s'affiche, le vrai adorateur n'adore que Dieu. Le vrai adorateur n'adore que Dieu. Deuxième clé, le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Et enfin, la troisième clé que nous allons voir ce matin, le vrai adorateur adore Dieu en toutes circonstances. Amen. C'est bon? C'est parti alors. Première clé, le vrai adorateur n'adore que Dieu. L'apôtre Paul dit cette chose à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, « Vous avez été prédestinés afin que vous serviez à la louange de la gloire de Dieu. » Regardez ce qui est écrit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous avons été prédestinés afin que nous servions à la louange de la gloire de Dieu. Nous sommes nés pour louer, nous sommes nés pour adorer Dieu. Alors, on va dire, facile, hein. Évidemment qu'il faut adorer Dieu. Évidemment qu'il faut n'adorer que Dieu. Mais mes chers amis, il arrive dans la vie des circonstances où cette certitude peut être éprouvée. Il arrivera dans la vie, il vous est peut-être arrivé, il y a des épreuves qui vont venir ébranler cette certitude. C'est arrivé à Jésus, cela peut nous arriver. C'est arrivé à Jésus dans Matthieu 4, lorsque Jésus est tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 4, versets 8 et 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus est tenté. Le diable vient le challenger. Est-ce que vraiment tu veux adorer que Dieu ? Je suis capable de te donner plein de choses. Toutes les puissances, tous les royaumes de ce monde, je te les donne si tu te prosternes et si tu m'adores. Alors pour vraiment saisir la profondeur vraiment de ce texte, on va faire un petit cours de grec, rapide. On ouvre la parenthèse. Le terme « adorer » ici, qui est utilisé, vient du grec, qui est « proskuneo ». Proskuneo, qui a deux sens. Le premier sens qui s'affiche, proskuneo, c'est se prosterner sur les genoux, c'est toucher le sol avec le front en expression d'une profonde révérence. Là, on est là dans une posture physique. Se prosterner, s'agenouiller, se prosterner, être vraiment à même le sol en signe d'une profonde révérence. Alors vous allez me dire, bien sûr mon frère, si Satan devait se présenter devant nous, à moins d'être coutumier des rites occultes, ce qui n'est pas le cas de chrétiens nés de nouveau, bien sûr que nous n'allons pas nous agenouiller physiquement devant Satan, devant vraiment les démons. Mais vous savez, le diable est beaucoup plus subtil que cela. Et il utilise des subtilités pour que notre adoration à Dieu ne soit plus exclusive, pour que Dieu n'ait pas l'exclusivité de notre adoration, mais pour la détourner sur autre chose. Et c'est là que je veux vous emmener à la deuxième signification de proskuneo. Deuxième signification de proskuneo en grec, donc qui a donné le mot adorer, c'est marquer son obéissance aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Combien de fois nous sommes tentés d'aller adorer autre chose parce que nous voulons faire des supplications à autre chose? Nous allons le voir. Combien de fois pour marquer un respect vis-à-vis d'une quelconque autorité, plus souvent spirituelle d'ailleurs, nous nous prosternons intérieurement. Et Dieu n'a plus l'exclusivité de l'adoration. J'aimerais, mes frères et sœurs, parce que je veux que ce message soit un message pratique, vous donner deux applications concrètes, deux pièges à éviter, pour éviter justement que Dieu perde l'exclusivité de notre adoration. Premièrement, soyons vigilants lorsque nous sommes au bout du rouleau. Parce que c'est à ce moment-là que le diable viendra te tenter. Regardez ce qui est dit. On revient dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et c'est à ce moment-là, c'est lorsqu'il y aura des manques dans ta vie, c'est lorsque tu seras au bout du rouleau que Satan va essayer de t'offrir, de combler le manque que tu as, mais en échange, il va suggérer subtilement d'abandonner l'adoration exclusive que tu dois rendre à Dieu. Alors je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il y avait ce mal de dos, il y avait cette arthrite pour lequel tu as prié pendant des années, et rien ne s'est passé, tu es à bout, et puis un collègue de travail te dit, « Ah mais tu sais, moi je connais un coupeur de feu !» Tu l'appelles, tu fermes les yeux, il fait quelques incantations, et voilà. Peut-être aussi que tu as l'impression que tu tournes en rond dans ta vie. Tu ne sais pas quelle direction donner à ta vie. Et là, un ami te dit, tu sais, j'ai vécu la même situation que toi. Et je me rappelle que j'ai été dans un cabinet de voyant, un médium, très bien, sur Genève, très réputé. Tu vas chez lui, tu fermes les yeux. Il va faire quelques incantations et puis il te dira quoi faire. Peut-être aussi que tu es menacé, tu as reçu des menaces pour ta vie. Et puis il y a cet oncle, il y a cette tante au pays qui t'envoie ces petits objets, qui te dit, voilà ces petits objets, porte-le, ça va t'assurer la protection. Tous les matins, voilà ce que tu dois faire sur ce petit objet. Mes frères et sœurs, veillons à toutes ces choses. Dieu mérite notre adoration. Lorsque nous faisons toutes ces choses, nous nous prosternons devant d'autres dieux. Lorsque nous faisons ces choses, nous recherchons la faveur d'autres dieux. Et Dieu n'a plus l'exclusivité de notre adoration. C'est pour cela que David dit dans le psaume 16, versets 4 à 6, « Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. » Mes frères et sœurs, faisons attention lorsque nous ressentons des manques, lorsque nous sommes au bout du rouleau. Nous sommes plus vulnérables à être tentés d'adorer autre chose que Dieu. Alors comme David, redoublons d'intensité dans l'adoration. Comme Jésus, refusons de nous prosterner devant autre chose que le Dieu vivant. Amen. Premier piège, donc. Premier piège. Deuxième piège. Deuxième piège. Vous avez vu qu'on a vu tout à l'heure que proskuneo, c'était aussi marquer son obéissance comme marque de respect. Et bien souvent, mes frères et sœurs, même en tant que chrétiens, nous confondons le messager et Dieu lui-même. Amen. Nous confondons le messager et celui qui a envoyé le messager. Et j'aimerais partager trois illustrations avec vous pour cela. Acte chapitre 10. Dans Acte chapitre 10, Corneille, le centenier Corneille, qui est un homme qui craint Dieu, nous dit le verset 22 dans Acte chapitre 10. Et Corneille, sous l'inspiration divine, va inviter Pierre, l'apôtre Pierre, à venir chez lui à Césarée. Et regardez ce qui se passe lorsque Pierre se présente dans la maison de Corneille. Acte chapitre 10, versets 24 à 26. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Pourtant, Corneille, il avait reçu quand même l'inspiration divine d'inviter Pierre. Corneille, pensant bien faire, se prosterna devant Pierre. Mais Pierre va lui dire, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Deuxième exemple, toujours dans le livre des Actes, Paul et Barnabas. Situation quasiment identique. Lorsque dans le chapitre 14 du livre des Actes, Paul voit cet homme qui est paralysé des pieds, il va prier pour lui, cet homme va être miraculeusement guéri à l'instant même. Et puis voyez ce qui se passe après cette guérison, versets 11 et 12 dans Actes chapitre 14. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter qui est dans la mythologie grecque, qui représente le dieu des dieux. Et ils appelaient Paul Mercure, qui dans la mythologie romaine représente le messager des autres dieux, parce que c'était lui qui portait la parole. Et au verset 14 et 15, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses pour vous tourner vers qui ? Vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Troisième et dernier exemple. Jean, Apocalypse 22. Jean, en conclusion de toutes les visions qu'il avait reçues dans le livre d'Apocalypse, Jean dit cela dans Apocalypse 22, verset 8. Il voit l'ange. Il voit l'ange. Quelle vision! Quelle rencontre! Et regardez ce que dit Jean dans Apocalypse 22, verset 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, Je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de la vie. Et qu'est-ce que l'ange dit à Jean ? Adore Dieu. Ne m'adore pas. Adore Dieu. Oui, mes frères et sœurs, notre adoration doit être exclusivement portée sur Dieu. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à qui nous portons notre adoration. Nous pouvons avoir beaucoup de respect, et j'ouvre là une parenthèse rapidement. Nous pouvons avoir beaucoup de respect pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour un quelconque autre ministère spirituel dans l'Église. Mais veillons, mes amis, mes chers amis, à ce que ce respect, cette marque de respect ne s'en transforme pas en une vénération au point de ne plus donner l'exclusivité de notre adoration à Dieu. Il y a beaucoup de dérives là-dessus, et je ferme la parenthèse ici. Le vrai adorateur n'adore que Dieu. Deuxième point, deuxième clé. Le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Autrement dit, après qui adorer, c'est maintenant comment adorer. Comment adore le vrai adorateur? Pour cela, j'aimerais vous amener dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, ce dialogue, cet échange qu'il y a avec Jésus, entre Jésus et la femme samaritaine. Pour vous donner le contexte rapidement, Jésus sort de Judée, il va en Galilée et il passe en Samarie, près d'une ville qui s'appelle Sichar. Il rencontre cette femme, Jésus est exténué, il est assoiffé, il commence cette discussion avec cette femme et s'ensuit donc un échange où Jésus va confronter la vie morale de cette femme. Et cette femme va reconnaître que Jésus est vraiment un prophète. Et à partir du verset 20, il y a cet échange incroyable qui s'assimile presque à vraiment à un échange quasi doctrinal sur l'adoration. Regardez ce qu'il est dit. La femme commence, la femme samaritaine, en disant « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration en esprit. Oui, l'adoration est spirituelle, mes frères et sœurs. Une adoration spirituelle est celle qui vient du cœur. Une adoration spirituelle est celle où notre esprit fait écho à l'esprit de Dieu. Adorer en esprit, c'est élever notre adoration dans la sphère spirituelle de Dieu. C'est une communication entre notre esprit et l'esprit de Dieu. C'est une grande vérité, mes frères et sœurs. Nous allons voir pourquoi. Parce que lorsque nous adorons en esprit, l'environnement naturel, notre environnement naturel, passe au second plan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Lorsque nous adorons en esprit, notre environnement naturel passe au second plan. Et encore une fois, parce que je veux que ce message soit pratique pour nous tous, trois applications concrètes. Celui qui adore en esprit, peu importe ce qui se passe autour de lui, ce qui est important à ce moment-là, c'est sa volonté de donner gloire à Dieu. Que tu le fasses avec les mains, fais-le. Que tu le fasses en étant à genoux, fais-le. Que tu le fasses en étant couché à même le sol, fais-le. Que tu le fasses en dansant, fais-le. Parce que tu n'as point d'égard pour ce qui se passe autour de toi à ce moment-là. C'est exactement ce que David faisait dans 2 Samuel chapitre 6, lorsque la Bible dit « Le roi David dansait de toute sa force devant l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. » Et sa femme Michal se présente en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es un homme de rien !» Et David va lui répondre « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil. » David est en train de dire à Michal, peu importe, c'est pas grave, qu'on me prenne pour un idiot, mais je danse, je chante, je pousse des cris de joie devant l'Éternel. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Deuxième application concrète, mes frères et sœurs, lorsqu'on adore en esprit, l'environnement, notre environnement naturel passe au second plan parce que l'adoration spirituelle, l'adoration en esprit n'est pas limitée à un espace physique. Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour ce lieu où nous avons la possibilité d'adorer. Mais regardez ce que dit la femme à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pour comprendre cet échange, pour comprendre cette parole de la femme samaritaine à Jésus, il faut se remettre très rapidement, faire un petit peu de théologie, très rapidement. Lorsque le roi Salomon meurt, le royaume d'Israël va être divisé. Il y a au nord, il y aura le royaume du nord, donc avec la capitale Samarie, qui vont donner donc les Samaritains. Et au sud, les Juifs vont avoir pour capitale Jérusalem. Et il se trouve que les Samaritains ont pris comme décision, en se basant sur beaucoup de récits dans le Pentateuque, que le mont Garizim, et le mont Garizim c'est un mont qui n'est pas trop loin de là où se passe la scène entre Jésus et la femme samaritaine, que le mont Garizim est le mont sur lequel ils doivent adorer Dieu. Et les Juifs disent, les Juifs du royaume du Sud, disent mais non, c'est Jérusalem, c'est là que nous avons construit le temple, et c'est là que nous devons adorer. Et mes frères et sœurs, c'était quelque chose de sérieux à cette époque. Parce que des gens venaient de très loin pour venir adorer, que ce soit au mont Garizim pour les Samaritains, et que ce soit à Jérusalem pour les Juifs. À tel point, rappelez-vous, l'eunuque, dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, il vient d'Éthiopie pour venir adorer à Jérusalem. L'Éthiopie à Jérusalem, j'ai regardé, c'est plus de 4000 kilomètres. Il vient, il n'y avait pas d'avion à l'époque, hein. Il vient pour adorer. Et c'était quelque chose de sérieux. Et dans ce contexte-là, Jésus va lui répondre, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et là, il y avait une prophétie de Jésus. Une double prophétie. La première, Jésus est en train de dire, vous adorez dans des endroits physiques, mais ces endroits physiques ne seront plus. Et effectivement, 40 ans après que Jésus ait déclaré cela, le temple de Jérusalem va être détruit. Et le mont Garizim, il y a des milliers de Samaritains qui vont être tués. Et le temple qui a été construit sur le mont Garizim va être également détruit. Et la deuxième prophétie que Jésus est en train de dire, c'est que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et alors vous pourrez adorer en esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est également ce que Paul a dit à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors peu importe où que tu sois ici, que tu sois chez toi, que tu sois au travail, que tu sois dans le bus, adore. Amen. Peu importe où nous nous trouvons et à quel moment que ce soit, nous pouvons, si nous le pouvons, adorer Dieu. Troisième et dernière application, pour vraiment que nous puissions prendre conscience que lorsque nous adorons en esprit, l'environnement naturel est au second plan. C'est que la vraie adoration en esprit n'a pas besoin de rituel. La vraie adoration en esprit n'a pas besoin de protocole particulier. Parce que Dieu est concerné, est plus concerné par notre attitude de cœur que par la forme que prend notre adoration. Vous savez, les instruments sont très bien. Les micros sont très bien. Les chants sont très bien. La vidéoprojection, c'est très bien. Mais ce ne sont que des supports. La vraie adoration est plus que la musique. La vraie adoration est plus que cela. La vraie adoration est plus qu'un piano, qu'un clavier. Ma sœur, mon frère, ne te laisse pas troubler un jour parce que la sono est de mauvaise qualité. Que la mauvaise qualité de la sono ne soit pas une excuse pour ne pas adorer Dieu. Non, adore Dieu, adore Dieu. Adore en esprit. Vous savez, des fois, adorer en esprit, c'est tout simplement adorer en toute simplicité. Le roi David, alors qu'il est sur son lit de mort dans 1 Roi chapitre 1, il est sur son lit de mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous lirez ça chez vous, je ne l'ai pas, il n'est pas affiché. La Bible dit, le roi s'est prosterné sur son lit, tout simplement. Le même David qui dansait avec des tambourins, qui dansait avec plein d'instruments, à ce moment-là, tout simplement, il se prosterne sur son lit. Oui, lorsque j'adore en esprit, l'environnement naturel passe au second plan. Le vrai adorateur adore en esprit, mais il adore aussi en vérité. La vérité. La vérité, le terme grec qui est traduit ici par vérité, c'est aletheia, qui désigne la vérité qui émane des enseignements de Dieu. Et où se trouve la vérité de Dieu? Dans la parole de Dieu. Les enseignements qui émanent de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est pour cela que Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, Il va dire, en s'adressant à Dieu, Jésus va reconnaître en disant, ta parole est la vérité. Et c'est pour cela que à cette femme samaritaine, Jésus va dire cela, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je reprends l'exemple de notre ministre des Finances éthiopien. Il parcourt 4000 kilomètres, il vient à Jérusalem, il adore Dieu, il adore, il accomplit son rituel. Et une fois qu'il a fini d'adorer, il prend son char, toute sa troupe, il est là dans son char, et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le livre d'Ésaïe. Mais sauf qu'il n'y comprend absolument rien. Et Philippe arrive à ce moment-là, et Philippe va lui dire, mais cher ministre, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Et lui-même, il va reconnaître en disant, bah, comment pourrais-je le comprendre si personne ne me l'explique? Voilà un homme qui vient d'adorer Dieu, qui a parcouru 4000 kilomètres pour adorer Dieu, mais il ne comprend rien à la parole de Dieu. Il a fallu que Philippe lui annonce l'évangile, qu'il soit transformé, et que de lui-même, il dise à Philippe, il y a ici un point d'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas adorer si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Parce que le vrai adorateur adore en vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu, au travers de la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, qui est affiché, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Le vrai adorateur adore en vérité. Le vrai adorateur est fondé sur la parole de Dieu. C'est pour cela que ce même David, l'adorateur par excellence, encore une fois, il va nous dire dans le psaume 119, verset 171, que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Le vrai adorateur n'adore que Dieu. Le vrai adorateur adore en esprit et en vérité. Qui adorer Dieu? Comment adorer en esprit et en vérité? Maintenant, quand adorer? Quand adorer? Le vrai adorateur adore en toutes circonstances. Amen. Le vrai adorateur adore en toutes circonstances. Vous savez, face aux circonstances mauvaises, face aux circonstances négatives de la vie, la parole de Dieu nous enseigne à développer une attitude de reconnaissance. C'est vrai. D'ailleurs, l'apôtre Paul le disait à l'église de Thessalonique, il disait « Rendez grâce en toutes choses ». Et lorsque tu adores Dieu, malgré tes difficultés, lorsque tu adores Dieu, malgré la maladie, lorsque tu adores Dieu, malgré le chômage, c'est la vision que tu as de lui, c'est la vision que tu as de Dieu qui prend le dessus sur tes problèmes. Et j'aime bien cette citation de David Wilkerson qui s'affiche, qui est le fondateur de l'église Times Square Church à New York. David Wilkerson dit la chose suivante, « Les vrais adorateurs se construisent pendant les sombres nuits. » Parce que notre façon de réagir durant nos sombres nuits, c'est elle qui détermine quelle sorte d'adorateur nous sommes. C'est dans les problèmes que là on verra si tu es un vrai adorateur. C'est dans les difficultés qu'on verra si tu es une vraie adoratrice. Remarquez que David, il a écrit la plupart des psaumes qui ont été écrits par David, des psaumes de louange, des psaumes d'adoration. Il les a écrits alors qu'il était pourchassé par Saül, qui voulait sa mort. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit « Mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel ». Oui, c'est dans les problèmes que ton vrai cœur d'adorateur se révèle. Et l'exemple le plus marquant, j'ai bientôt fini, l'exemple le plus marquant, mes frères et sœurs, c'est Abraham. Genèse chapitre 22. Abraham, on parle beaucoup d'Abraham et cette scène à laquelle nous allons faire allusion. On parle beaucoup d'Abraham pour cet acte de foi. Oui, il a fallu beaucoup de foi. Voyez-vous, vous avez un fils unique et Dieu vous dit, ben va, tu le sacrifies. Il a fallu quand même une bonne dose de foi pour le faire. Mais regardez ce qu'il est dit à la fin du verset 5. Lorsque Abraham va obéir à l'injonction de Dieu, il prend son fils, il selle son âne, il va avec ses serviteurs. Arrivé près de l'endroit, Abraham doit sacrifier son fils. Regardez ce qu'il est dit, la dernière phrase. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là. Pourquoi ?» Pour, voilà un homme qui va tuer son fils, parce que Dieu lui a demandé. Et qu'est-ce qu'il fait avant? Il adore. restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Et j'ai essayé de contextualiser, mes frères et sœurs, cette scène. Abraham prend un âne. Lorsque Abraham reçoit cet ordre de Dieu, il est à Beersheba. Beersheba, et Dieu lui dit, va à Morija. Entre Beersheba et Morija, il y a 80 kilomètres. 80 kilomètres parcourus avec un âne. C'est pas très rapide. Hein. Et la Bible nous dit que ça lui prend 3 jours de quitter Beersheba pour aller à Morija. Alors je me mets dans la peau, moi qui suis père également, je me mets dans la peau d'Abraham. Je me dis, pendant ces 3 jours, tu marches, tu dis, oh, j'ai tué mon fils. Oh, il a dû ruminer. Et au bout du 3e jour, quand il arrive à Morija, il dit non, il trouve la force pour dire, restez ici mes serviteurs, je vais d'abord adorer. Vous savez ce que cela m'apprend, et je pense que c'est une très bonne application pour nous chrétiens, c'est que avant d'aller affronter ton problème, avant d'aller affronter ton défi, tu adores. Je ne sais pas cette semaine si tu as un rendez-vous, si tu as une échéance importante, et tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Peut-être que cette semaine, tu attends un diagnostic médical. Peut-être que tu as cette semaine un rendez-vous pour un travail que tu attends. Mais avant d'y aller, avant de l'affronter, tu adores, comme Abraham. Et comme David, nous pouvons dire dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je ne vais pas le bénir lorsque les choses vont bien, mais je le bénirai lorsque les choses vont. Alléluia. Le vrai adorateur n'adore que Dieu. Le vrai adorateur adore en esprit et en vérité. Et le vrai adorateur adore en toutes circonstances. Alors que je vais conclure, je vais demander vraiment, parce que ce message est un message pratique, je vais demander à l'équipe de louanges de revenir. Nous allons prendre 5 dernières minutes qui nous restent pour adorer. Adorer. Peut-être que jusqu'à présent tu adorais, mais tu ne savais pas ce que c'était l'adoration. Là, le Seigneur t'a montré au travers de sa parole ce qu'est l'adoration. Et j'aimerais terminer en disant cela. Notre adoration est personnelle. Personne ne peut rendre gloire à Dieu à ta place. Personne ne peut le faire. L'adoration, comme a dit le pasteur Walter tout à l'heure, l'adoration c'est quelque chose qu'on offre de manière volontaire et personnelle à Dieu. Nous pouvons adorer Dieu tous ensemble comme nous le faisons en ce moment. Mais si tu n'as pas appris à adorer Dieu sur le plan personnel, dans ton culte personnel, dans ton culte familial, dans ton culte matinal, dans ton culte du soir, tu auras beaucoup de mal à le faire au milieu de l'assemblée. Oui, mes frères et sœurs, que notre adoration soit exclusivement centrée sur Dieu. Ne laissons rien d'autre prendre cette place. Et lorsque nous adorons, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Levez les mains, à genoux, tout, mais faites-le, laissez-vous inspirer. Es-tu plus à l'aise à lever les mains? Lève les mains. Es-tu plus à l'aise à être à genoux? Sois à genoux. Le Saint-Esprit t'inspire à être couché par terre? Fais-le. Parce que lorsqu'on adore en esprit, peu importe ce qui se passe autour de moi. Parce qu'à ce moment-là, je suis centré sur le Dieu que j'adore. Et quelles que soient les circonstances, nous voulons être dans l'adoration parce que nous voulons placer Dieu au-dessus de nos problèmes. Car l'adoration, quelqu'un disait que l'adoration, c'est le prélude de la prière. Oui, oui. Dieu attend de moi, Dieu attend de toi, Dieu attend de nous que nous soyons de vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Merci Jésus.